Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Tom Mulcair, bonjour. Ah, je pense que... Tom Mulcair, êtes-vous
oui.
avec moi?
Ben oui, je suis toujours là. Est-ce bon, que tu m'entends?
Oui, là, ça va super bien.
Alors, bon, un, deux.
Un, deux, c'est ça, test. Tom, il y a cette histoire des documents là qu'on commence à voir qui disent que le cabinet fédéral a été informé d'une possible percée avec le convoi de la liberté, entre guillemets, là, plusieurs guillemets, la veille du jour où le gouvernement a invoqué la loi sur les urgences.
Oui, et c'est une chose qu'on voit de temps en temps en politique où on doit garder certaines choses secrètes, ça se comprend, mais parfois quand on commence à sortir de l'information, puis le reste est caviardé, assuré, caché, on pourrait dire qu'on donne trop d'informations puis pas assez. On l'a vécu aux États-Unis très récemment. Bon, ils vont à Mar-a-Lago, ils ont un mandat de perquisition, ils regardent, le monde dit « Ah, FBI, c'est politisé maintenant, ils sont contre notre ami Trump ». Le chef du FBI, nommé par Trump il y a quelques années, dit « Il n'en est rien, on avait des motifs valables, et je demande au juge de me laisser rendre public les raisons pour lesquelles on a eu le mandat de perquisition ». Fast forward, cette semaine à Ottawa, parce qu'on est en train de regarder la décision d'imposer la fameuse loi sur les urgences, un peu la suite de la loi sur les mesures de guerre, et voilà qu'il y a un document où la personne responsable de la sécurité nationale aurait dit, écoutez, il y a la possibilité d'un breakthrough, hein, d'une percée en négociant avec les gens, le convoi de la soi-disante liberté, la gang de Zouf qui avait bloqué tout le centre-ville d'Ottawa. Bon, on regarde ça, puis on dit, ah ah, il savait qu'il y avait la possibilité de régler et il a quand même imposé la loi le lendemain. Ce qu'on apprend quand on lit un petit peu plus puis qu'on en écoute le contexte, c'est que la personne responsable leur a bel et bien dit ça, mais par la suite, ils ont vu que c'était désavoué par la plupart des autres organisateurs. C'était pas une percée réelle puis ça pouvait pas se faire. Mais la seule chose qui va être retenue, c'est le titre dans certains journaux qui penche pour la plupart un peu à droite hier, parce que ça n'a pas fait énormément les nouvelles par ailleurs.
Mais non, ça n'a pas attiré l'attention de ben du monde.
Non, mais ça va attirer l'attention des médias sociaux. Et ça va pousser fort. Et les gens vont dire, ouais, vous voyez, hein, vous l'avez dit, qu'il y a une conspiration, puis ainsi de suite. Donc, ça prend rien pour allumer cette braise-là et faire un feu de forêt. Et c'est ce qui est dangereux dans le contexte des médias sociaux. Un petit peu d'information est une chose dangereuse. Alors, là, Trudeau et son comité et son conseil des ministres et toute l'information vont être en train d'être soupesés aujourd'hui en haut lieu pour dire, écoutez, là, on peut pas laisser ça comme ça parce que ça va juste prendre de l'ampleur au cours des prochaines heures, prochains jours, prochains mois. Ils vont réussir à s'auto-convaincre qu'il n'y a jamais eu de motif raisonnable d'imposer la loi sur les urgences. Personnellement, je sais que les corps de police n'avaient pas l'unité nécessaire et le commandement unifié nécessaire pour pouvoir mettre un terme à cette folie-là, parce que n'oubliez pas que ces gens-là avaient dit qu'ils ne partiraient pas tant et aussi longtemps qu'ils n'avaient pas fait remplacer le gouvernement. Je m'excuse, dans une démocratie, c'est un tout petit problème.
Et c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a des politiciens qui ont soutenu ça.
Eh oui, notamment Andrew Scheer. Bon, l'autre chef avant ou autour, parce que les conservateurs ont l'art de changer de chef. Si je regarde, là, Stephen Harper est parti en 2016, Scheer est parti en 2018. Entre les deux, évidemment, il y avait Ron Ambrose, ça en fait trois. Puis là, on a eu O'Toole, puis là, on va avoir presque certainement Poilievre. Bon, ils changent de chef comme de chemise, mais on peut dire la même chose du Parti libéral. Hein? Ils ont fait la même chose après le départ de Paul Martin qui avait remplacé Chrétien, puis ils en ont eu une série de chefs, Michael Ignatieff en passant par Dion, puis Jean.
Mais il faut dire, Tom, qu'ils étaient dans une longue traversée du désert post-scandale des commandites,
qui
n'est pas nécessairement le cas des conservateurs, donc on comprend moins pourquoi ils sont
incapables d'avancer. Ils sont dans une longue traversée du désert, suite au départ de Harper, pour la bonne et simple raison que Harper était capable d'enfourcher les deux chevaux en même temps. Les progressistes conservateurs, qu'il dominait, mais il gardait Peter McKay à côté de lui. Peu importe les affres, Peter McKay, là, qu'on se le dise, il était un très bon ministre de la Justice. Oui. Il a fait des choses pour réglementer et criminaliser l'échange d'informations, des photos sexuelles et ainsi de suite, contre le gré de la personne. Et il a fait des choses importantes. Mais comme ministre de la Défense nationale, il avait tellement une tendance à m'as-tu vu, il a fait venir un hélico à son camp de pêche pour épater ses copains en partant au bout d'un treuil d'un hélico de la Défense nationale qui avait peut-être autre chose à faire que d'aller chercher le ministre sur le bout d'un treuil à un camp de pêche. Mais ça, c'était le pire côté de Peter McKay. Mais McKay représentait les progressistes conservateurs. C'est lui qui avait sabordé le parti pour faire le parti unifié avec Harper. Harper a dominé ça avec une main de fer. Mais une fois qu'il est parti, c'est le free-for-all. Et donc, on a vu que c'est en train de s'endurcir et c'est relié à cette question du convoi pour la raison suivante. Justement, Poilievre et Scheer sont allés soutenir le convoi de la liberté à un moindre degré Candace Bergen, la chef par intérim des conservateurs. Donc, Poilievre, fièrement, il se bombe le torse, il dit « ça c'est ma gang, je vais venir les supporter et les soutenir ».
Comment aurait réagi un Stephen Harper durant un convoi comme ça?
Harper Harper, on peut dire ce qu'on veut de Harper. Et moi, y a personne qui a fait face à Stephen Harper plus que moi.
Mais c'est un gars de loi et d'ordre.
Oui, mais j'oserais dire aussi, c'est un gars qui comprend le devoir d'État.
Oui. Oui.
Et il comprend qu'il représente quand même cette partie un petit peu mal. Difficile à définir, mais le Canada doit représenter quelque chose d'un petit peu plus haut. Pays du G7, membre de l'OTAN, on a un certain devoir. Ça échappe complètement à notre ami Poilievre. À ce qui est intéressant, c'est que hier, et justement, il y a eu en Alberta une réunion, je vais le dire en anglais parce que malheureusement, il y a très peu de Français dans leur patente, mais ils s'appellent entre eux autres les Center ICE Conservatives. Donc, les conservateurs qui aiment bien occuper le centre de la patinoire. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ben, il y avait Andrew Coyne, qui est un gars raisonnable, modéré, mais conservateur néanmoins. Christy Clark, ancienne première ministre de Colombie-Britannique. Alors, je peux te dire, pour avoir fait le pays en long et en large non-stop, qu'il y a deux provinces très progressistes au Canada, le Québec et la Colombie-Britannique. Bon, comment ça se fait qu'au Québec, on a un gouvernement de droite? Parce que Legault sait jouer le jeu. Il incarne quand même ce milieu du chemin, puis beaucoup de gens qui autrement auraient été plus progressistes avec les libéraux ou QS disent, ben, c'est mon gars. Colombie-Britannique, c'est la même chose. Province très progressiste. Aujourd'hui, seule province avec le NPD au pouvoir. Mais Christy Clark, qui était le chef, il faut comprendre un peu la politique canadienne. Il y a eu une honte épouvantable avec l'ancien parti conservateur et ses antécédents. Donc, il n'y a personne qui a un réel parti avec des chances qui s'appelle conservateur en Colombie-Britannique. Elle était la chef du Parti libéral qui
Ils sont considérés comme un peu les conservateurs, la droite, disons, sur le chiquier politique.
Ils sont la droite. Ils sont les conservateurs de Colombie-Britannique. Mais Christy Clark elle-même était le François Legault dans ce truc-là. Elle était capable d'attirer les gens vers le centre et c'était son propos lors de ce truc-là. C'est elle qui a amené la taxe carbone en Colombie-Britannique, qui avec le Québec est la première province à l'avoir. Et voilà que c'était les NPD qui l'attaquaient. Ils disaient « axe the tax », il faut enlever cette taxe ONI. Et évidemment, les progressistes ont capoté contre le NPD à l'époque. C'était Carol James, la chef. Donc, fast forward, on retourne en Alberta. On a cette réunion du Center ICE Conservatives, les conservateurs du centre de la glace. Tasha Carradine était là. Monsieur Peterson, qui se voulait candidat pour les conservateurs et ainsi de suite. Donc, des gens qui regardent l'état des lieux pour le conservatisme au Canada, ils disent, ben, il y a une gang de dingues qui est frustrée parce que O'Toole a osé parler contre les armes à feu et a osé parler d'une taxe carbone.
Il a osé parler comme le moyen des Canadiens.
Ben oui, mais on veut un vrai, on veut un gars qui va nous dire exactement ce qu'on veut entendre. Et ce gars-là s'appelle Pierre Poilievre. Alors, la réunion d'hier visait surtout à parler de conservatisme dans le style de Jean Charest. Et ce qui est intéressant, c'est que Charest refuse de dire ce qu'il va faire si Poilievre gagne. On lui a demandé s'il va mettre Poilievre dans son conseil des ministres. S'il gagne, il a dit bien sûr. Mais on lui a demandé s'il reste, si Poilievre gagne, et il refusait de répondre. Il y a une forte pression dans les milieux conservateurs, à Bay Street, et ailleurs au Canada, pour dire, écoutez, là, ça ne marche pas. C'est voué à l'échec. Et je crois sincèrement que c'est totalement voué à l'échec. Je ne peux pas imaginer que le Canada que je connais, et je connais vraiment très bien le Canada, j'ose le dire, pourrait élire Pierre Poilievre. Mais les conservateurs veulent pas un premier ministre du Canada. Ils veulent un chef conservateur qui pense comme les autres. Et le parti s'est endurci depuis
les
dernières
quelques
années.
Mais est-ce que le Center ICE Conservative, ce nouveau regroupement, oui. Moi, ça me fait penser à, tu sais, le groupe de réflexion de François Legault avant que la Coalition Avenir Québec devienne un parti politique?
Mais oui. C'est très similaire. Mais est-ce qu'ils vont avoir les ressources et le temps pour le faire? Une des choses qui... Moi, je regardais que Charest avait quand même un chemin possible vers la victoire. Et quand il a fait son papier le 4 juillet expliquant ça, c'était plausible. Mais dès qu'ils ont sabordé intentionnellement la campagne de Patrick Brown, le E en question étant le Parti conservateur, moi, je voyais plus de chemin.
Mais penses-tu que les appuis de Patrick Brown ne sont pas allés directement chez Jean Charest, notamment ses organisateurs, ses...
Ils vont pas voter. La personne qui est membre d'une communauté culturelle X, puis il en a côtoyé plusieurs, puis d'importants dans le Greater Toronto Area, moi j'en connais. Et